Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Je vous rappelle que nous sommes en train de continuer l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit par Jean, au travers de Jean, nous a révélé les choses qui vont se produire jusqu'à la fin des temps. C'est du prophétique qui dépend uniquement de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que ça se passera sans appel. Ce n'est pas l'homme qui peut décider quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit dans les prophéties que nous étudions ici. Mais étudier la prophétie de la fin des temps vous permet aussi de comprendre comment l'Esprit de Dieu fonctionne et veut fonctionner avec les hommes. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier cela, entre autres. Mais aussi, c'est important parce que ça nous permet de comprendre ce que c'est que la consommation, l'accomplissement de notre salut, frères et
sœurs.
Tu n'es pas sauvé pour être dans une église. Mais Dieu t'a sauvé pour t'emmener dans un voyage extraordinaire pour l'éternité. Et nous avons le privilège, en tant qu'enfants de Dieu, au travers de la parole, de savoir quels vont être les événements qui vont amener justement le peuple de Dieu dans l'éternité à régner avec Christ. Alors, Jean reçoit cette révélation. Apocalypse veut dire révélation, je vous le rappelle. Et nous avons vu qu'au chapitre 1, Jean va avoir une vision de Jésus glorifié. Jésus va lui donner une révélation avec sept messages pour les sept églises qui existaient à l'époque où il a reçu cette révélation. Nous avons vu, c'était en Asie mineure, dans l'ouest de la Turquie. Et Jean reçoit ces sept messages. C'est au chapitre 2, au chapitre 3. Ensuite, au chapitre 4, nous avons une révélation sur le monde invisible de Dieu, le troisième ciel. Et nous avons étudié ce qu'il y a dans le troisième ciel. Le trône de Dieu, les 24 anciens, les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, la Jérusalem céleste dont nous reparlerons un peu plus tard, et bien sûr tous les rachetés qui sont là. Nous savons que quand quelqu'un meurt en Christ, il va directement auprès du Seigneur, c'est-à-dire au troisième ciel. C'est là où il rencontre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons juste des arts de l'esprit, nous dit la Bible, une avance. Mais là, quand nous serons morts physiquement, quand notre corps va cesser de vivre biologiquement, nous savons que nous irons au troisième ciel avec lui et que nous retrouvons tous ceux qui sont morts en Christ. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, quand il y a des bien-aimés en Christ qui décèdent, même si des fois ils décèdent prématurément,
À
ne pas nous affliger comme le monde s'afflige. Parce que nous savons que si quelqu'un est mort en
Christ,
il est au troisième ciel. Et nous y serons aussi. Au chapitre 5, nous savons que Jean va voir l'agneau qui va ouvrir un livre scellé de sept
sceaux.
C'est un livre qui va s'ouvrir, que Jésus va ouvrir.
N'igitabo Yesu wenyene yashobora kugura.
Qu'il est le seul digne d'ouvrir.
Niwe wenyene abereye kucugurura.
Et nous savons qu'à partir du moment donc au chapitre 6, ça va être le déclenchement de la tribulation.
Maze kugice cha gatatu rero hatanguye igihe cihamwa.
Je vous rappelle que la tribulation n'est pas l'œuvre du diable du tout.
Ihamwa rero si Satan aritanguye.
Mais qu'elle fait partie des 70 semaines d'années prophétisées par Daniel.
Ariko rero mu rutonde rwa ya mayinga 70 Daniel yavuga.
Nous avons étudié cela dans Daniel chapitre 2, chapitre 7 et chapitre 9.
Ibi twaravize muri Daniel 2 indwi na 9.
Et on a vu que en recoupant toutes ces prophéties.
Twaravye rero turegeranya ubwo buvugishwa bwose.
D'abord il y aura 70 semaines d'années qui doivent être accomplies.
Ubwa mbere hari mayinga 70
Et je vous rappelle que l'Apocalypse n'est pas un livre pour faire peur, mais c'est au contraire un livre d'une immense victoire, celle du propriétaire des cieux et de la terre, qui va venir récupérer sa propriété, la terre, pour la gérer correctement, parce qu'elle a été extrêmement mal gérée depuis qu'Adam et Ève ont chuté. Et en fait, nous nous sommes aperçus que il y a des prophéties données par Daniel qui sont vraiment complémentaires à l'Apocalypse. 69 semaines d'années, c'est-à-dire 483 ans ont été
accomplis
jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Mais nous savons que Daniel, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament et même Jésus qui n'a pas parlé de cela volontairement dans les évangiles, nous savons que volontairement Dieu n'avait rien révélé sur le temps de l'Église. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on appelle la dispensation, le temps du mystère. Et nous savons que l'horloge prophétique pour Israël,
eh
bien, s'est arrêtée lorsque le Messie a été retranché, Jésus a été crucifié à la croix. Donc, l'horloge prophétique pour Israël reprendra lorsque Jésus va venir chercher son Église. Pourquoi? Ça sera la fin du temps de l'Église telle que nous la connaissons. Donc nous avons étudié différentes fondations pour mieux comprendre ce qui va se passer dans la tribulation. Et nous savons aussi que Jésus va venir enlever son Église au début de la tribulation. C'est pour ça que vous ne verrez plus à partir du chapitre 5 de l'Apocalypse, l'Église sur la terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors nous avons vu que pendant ces sept ans de tribulation, donc nous allons bien sûr être ressuscités ou notre corps va être transformé. Nous aurons un corps incorruptible qui ne pourra plus pécher et qui sera éternel, qui ne pourra plus jamais mourir. Et là, nous allons recevoir les récompenses, donc le tribunal de Christ. Pendant que sur la terre, il y aura la confusion, le chaos, dans le ciel, nous serons couronnés selon ce que nous aurons fait, selon la volonté de Dieu sur la terre.
Donc
ça, nous l'avons bien vu. Alors nous avons parlé de l'enlèvement, je ne vais pas revenir dessus.
Donc,
à partir du moment où les sept sceaux sont ouverts, la tribulation commence. L'Église n'est plus là. Par contre, il va se passer beaucoup de choses sur la terre. Dieu va envoyer des jugements. Et nous voyons que quand nous étudions les jugements de de Dieu, ils vont s'accélérer. Il va y avoir une montée des jugements de Dieu. Une accélération.
Et à ce
moment-là, il y a un autre camp qui va se lever, c'est le camp du diable.
Et
il va y avoir des confrontations de puissance de plus en plus importantes. Plus on avance dans la tribulation, plus les confrontations de puissance sont importantes. Nous savons que la tribulation est coupée en deux parties. La tribulation, ce qu'on appelle en général, c'est les 7 ans, mais la moitié, c'est la grande tribulation. Et au bout de 3 ans et demi, nous savons que l'Antichrist va prendre le pouvoir.
Nous avons donné
beaucoup de détails sur sa prise de pouvoir. Et l'objectif, bien sûr, c'est de faire un gouvernement mondial. Satan fera tout pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Dieu envoie ses jugements. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, jusqu'au sixième. Et quand le septième s'ouvre, alors il va y avoir une multiplicité de jugements. Donc ça va s'accélérer, comme je vous le disais précédemment. Et là, il y aura les 7 trompettes. Et là encore, les 6 premières sonnent. Ce sont des jugements. Et quand la 7e va sonner, ça va être une multiplicité encore de jugements. Ce sont les 7 coupes de la colère de Dieu, les dernières. Donc nous avons étudié tous ces jugements en détail. Entre-temps, nous savons que chapitre 12, entre autres, il y a les origines un petit peu du diable, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, etc., etc., et qu'est-ce qu'il fera encore. Chapitre 13, nous l'avons vu, c'est la montée de l'Antichrist. Et puis, les 7 coupes de la colère de Dieu à partir du chapitre 15. Et là, nous avons remarqué qu'il va y avoir un jugement dont les anges vont se féliciter. C'est la destruction des systèmes de ce monde. Rappelez-vous, l'Apocalypse, c'est l'histoire du royaume qui a été perdu à cause du péché d'Adam et
Ève.
Qui va être d'abord restauré, c'est le millénium. Et après, Dieu va instaurer son royaume, c'est-à-dire que Dieu va devenir tout en tous. Ça, c'est après le millénium. Maintenant, comment Dieu va-t-il récupérer la gestion de sa propriété?
Eh
bien, d'abord, en laissant une dernière chance aux hommes de se convertir, nous l'avons vu. Tous ceux qui ne prendront pas la marque de la bête et qui accepteront Jésus pendant la tribulation,
eh
bien, seront sauvés. Mais il faudra qu'ils gardent leur salut. S'ils craquent pendant ce temps-là et renient Jésus, parce que c'est trop dur, l'engagement va être très dur. C'est-à-dire que la condition, c'est que tu vas te convertir et tu as des chances que demain ou aujourd'hui, tu te fasses tuer. Parce que Satan va ultra-persécuter mondialement les chrétiens. Donc, nous avons vu comment Dieu va détruire tous les systèmes de ce monde. C'est ce que nous avons étudié particulièrement avec la chute de Babylone, qui n'est ni plus ni moins, c'est appelé aussi la grande prostituée, c'est ni plus ni moins évidemment l'image des systèmes de ce monde.
Et
je vous rappelle que les systèmes de ce monde, ce sont les systèmes politiques, économiques et sociaux. C'est pourquoi quand vous connaissez bien l'Apocalypse et la fin des temps, vous comprenez beaucoup mieux quand vous entendez ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité jour après jour dans les informations. Vous comprenez très largement que Satan est le gestionnaire des systèmes de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des guerres d'une manière ou d'une autre.
D'un
seul coup, il y a la paix ici, après c'est la guerre qui se déclenche là. Il y a des famines ici, il y a des catastrophes naturelles là, etc., etc., etc. Et partout, on voit le désordre satanique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment repérer quand on commence à comprendre la fin des temps. Donc, nous avons vu qu'il va y avoir des réjouissances après au ciel quand les systèmes de ce monde vont s'écrouler. Parce que ça, c'était vraiment là où Dieu voulait en venir à bout. Alors, nous en étions au chapitre 19, où là, Dieu va finalement récupérer la gestion de sa propriété.
Et
quand nous avons commencé à étudier le chapitre 19, eh bien, nous avons remarqué plusieurs choses. On a vu d'abord, au début du chapitre 19, les rachetés du troisième ciel qui exultent devant Dieu en louange par rapport à la victoire tant attendue de la chute des systèmes de ce monde. Ensuite, Dieu nous parle au verset 7 et verset 9 de ce même chapitre. Il nous parle des noces de l'agneau qui se passeront sur la terre. Et ça, c'est la réunion de Christ avec son épouse, c'est-à-dire l'Église, sur la terre. Nous l'avons vu aujourd'hui, c'est les fiançailles, entre guillemets, entre l'époux et l'épouse, entre Christ et son Église. C'est la période où on prêche l'évangile et celui qui veut écouter, il vient. Ensuite, il va y avoir la venue du fiancé. Le fiancé va venir chercher son épouse. C'est l'enlèvement de l'Église. Et le repas des noces, c'est la conclusion du mariage. Et c'est là où l'épouse va vivre dans la maison, c'est-à-dire sur la terre avec l'époux. Alors, nous avons ensuite regardé ce qui allait se passer, parce que là, ça va être vraiment la fin de la tribulation, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc nous savons qu'il y a un certain nombre d'événements chronologiques. D'abord, nous avons remarqué que la première chose, c'est que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Et ça, c'est très clair dans la parole de Dieu. C'est dans la vallée de Megiddo, nous l'avons vu. Nous avons vu la situation géographique de la vallée de Megiddo en Israël. Et en fait, l'idée, ça sera de détruire Israël. Rappelez-vous, pendant la tribulation, tout est orienté vers Israël. Et Israël va être complètement épuisé. Nous l'avons vu aussi au bord du gouffre. Jésus dira dans Matthieu 24-28 que les vautours vont s'assembler autour du cadavre. Et nous avons remarqué que le cadavre, c'est l'image d'Israël qui sera complètement au bord du gouffre, prêt à être complètement détruite. Mais nous avons vu qu'Israël va se repentir et se convertir en masse. Ce sont les prophéties de Zacharie 12, nous les avons vues, de Romains 11 et de Joël chapitre 3. Au moment où Israël va se convertir en masse, c'est là où Jésus revient pour la deuxième fois. Et nous avons remarqué un certain nombre de choses. Nous avons vu, donc on va relire à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Verset 11 à 21, donc du chapitre 19 de l'Apocalypse. Et nous allons continuer. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc nous savons que c'est Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ce verset 15, on peut le relire en Kirundi. Donc, Jésus va venir frapper les nations. C'est lui qui va les pètre avec une verge de fer, qui va les diriger avec une verge de fer, donc il va devenir le roi des nations. Mais il va faire une chose, il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il va détruire tous les inconvertis, nous allons le voir, à la fin de la tribulation. Donc là, il va détruire tous les inconvertis, faire mourir tous les inconvertis à la fin de la tribulation.
Verset 16,
maintenant nous allons continuer. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Verset 17. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Là, ce n'est pas les noces de l'agneau. Ça va être la bataille d'Armageddon, bien sûr. Verset 19. 18, afin de manger de la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les libres, de tous libres et esclaves, petits et grands. Verset 19, je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise, avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors ça va être la finalité avant justement l'entrée dans le millénium. Donc, nous avons remarqué un certain nombre de choses, parce que si on n'étudie pas, je dirais, le contexte de Matthieu 24 et 25 en parallèle, nous allons avoir du mal à comprendre un certain nombre de choses. Dans Matthieu 24, fin de Matthieu 24 et au début de Matthieu 25, nous avons trois paraboles qui sont importantes à comprendre. Ces trois paraboles vont être justement des paraboles de la fin de la tribulation et de l'entrée dans le millénium. Vous vous rappelez que nous avons étudié Matthieu 24. Et franchement, je pense que Matthieu 21 n'a plus de grand mystère pour vous maintenant. Parce que quand on connaît bien la fin des temps et comment ça va progresser, particulièrement la tribulation, Jésus décrit parfaitement la tribulation dans Matthieu 24. La progression de la tribulation, qu'est-ce qui va se produire? Et on retrouve tout à fait cela dans l'Apocalypse. Et bien sûr, en parallèle dans les différents chapitres de Daniel. Alors en fait, il y a trois paraboles. La parabole des serviteurs, celle des dix vierges et celle des talents. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que quand nous étudions ces trois paraboles, qui souvent portent à confusion quand on n'a pas de connaissance sur la fin des temps. Les gens citent ces paraboles, ils essaient de nous les appliquer à nous, l'Église, directement.
Alors que
Jésus les a donnés dans un contexte clair.
C'est
le contexte de la fin de la tribulation, même pas la tribulation, la fin de la tribulation. La terre aurait été jugée massivement par Dieu. Beaucoup de gens seront déjà morts. Satan aurait essayé de faire tous les miracles, les signes et les prodiges possibles et imaginables. Au travers de l'Antichrist et du faux prophète. Et ça va devenir dans une telle séduction que les gens auront du mal à faire la différence entre le surnaturel divin et le surnaturel satanique. Il y a vraiment des gens qui seront contre Dieu et diront nous on ne croit pas en Dieu. Mais il y aura un mysticisme gigantesque de sorcellerie, mais à un degré que la terre n'aura jamais connu. Beaucoup, beaucoup de miracles vont être faits par le diable pour séduire les gens. Rappelez-vous, Jésus a même dit, non, si on vous dit que le Christ est là ou là, ne le croyez pas. Il va s'élever des faux prophètes. Et rappelez-vous, 3 ans et demi, c'est court. Il y a tellement de choses qui se passent qui vont être des réalisations prophétiques dans les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi, que les gens vont être confus, ils vont être désespérés. Tout ce qu'on va essayer de leur proposer, ils l'essaieront. Par contre, rappelez-vous, plusieurs fois c'est bien dit dans la parole, rappelez-vous, dans l'Apocalypse nous avons lu Dieu prévient à plusieurs reprises de faire très attention à ne pas prendre la marque de la bête, cette alliance spirituelle irréversible. Et nous savons aussi que beaucoup vont perdre leur salut à cause de ça. C'est très clair dans cette période-là de tribulation. Beaucoup de gens vont perdre leur salut parce qu'ils vont craquer. Mais dans ces paraboles, Jésus va nous montrer qu'il va y avoir une telle confusion qu'il y a des gens qui vont se faire passer pour de vrais serviteurs de Dieu. Et ce seront des faux serviteurs de Dieu. Regardons ensemble du verset 45 au verset 51. 45 à 51, donc Matthieu 24. Il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46, heureux ce serviteur que son maître trouve à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Verset 48, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure dont il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors quand nous lisons cela, franchement, si on essaye d'appliquer ça à l'église, c'est une catastrophe parce qu'on ne comprend plus rien. Non, ici, il va y avoir un certain nombre de choses que nous devons connaître pour comprendre ces passages-là. Il faut bien comprendre qu'il y aura des récompenses, mais apparemment pas les mêmes que les nôtres. Pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout dans la tribulation. Mais dans les 3 paraboles que nous allons lire, il semblerait que Dieu va donner des récompenses quand même à ceux qui ont accepté le Seigneur pendant la tribulation. Mais apparemment, bien moins que les nôtres. Pourquoi ? Parce que nous avons cru, sans avoir vu, sans avoir vu non plus l'enlèvement, parce qu'eux, ils auront vu l'enlèvement. Un immense miracle qui va choquer toute la terre, je vous le rappelle. La première phase de la première résurrection va énormément étonner les inconvertis. Donc nous savons que ça va faire remettre en question pas mal de gens. Alors ici, on voit qu'on parle de vrais serviteurs et de faux serviteurs. Alors, on peut penser que les bons serviteurs, ce sont les croyants, juifs et non-juifs, qui ont accepté Jésus pendant la tribulation et qui lui sont restés fidèles, qui n'ont pas pris la marque de la bête, parce qu'ils ont, mal, ils ont aussi, été aussi très tentés de prendre la marque de la bête. Rappelez-vous qu'il y aura de gigantesques pressions sur les gens qui seront sauvés. Ils ne pourront pas acheter ou vendre. Ils vont être obligés de vivre une vie de reclus, c'est-à-dire complètement fermée de la société, tout en essayant de se débrouiller pour survivre. Ceux qui seront découverts ayant reçu Jésus, la majorité d'entre eux seront martyrisés, c'est-à-dire mis à mort pour leur foi. Donc là, on voit de bons et de mauvais serviteurs. Alors,
ce
n'est pas très facile d'interpréter ici, parce que certains interprètent en disant les mauvais serviteurs, ce sont les croyants de non seulement,
c'est-à-dire
qui se disent chrétiens. Mais rappelons-nous quand même que nous sommes à la fin de la tribulation. Et là, vraiment, les deux camps seront complètement différents. Ceux qui marchent avec Dieu devront le faire avec une ultra conviction. Et les autres le serviront le diable ouvertement. Ils profiteront encore des dernières choses des systèmes de ce monde. Donc personnellement, je pense que quand on parle de ces mauvais serviteurs, où il est dit, mais si c'est un mauvais serviteur, qu'il dise en lui-même, mon maître tarde à venir, verset 48, parce qu'il dit mon maître. Et là, pour moi, je pense que c'est plus des gens qui ont marché avec Dieu, mais qui ont perdu leur salut pendant la tribulation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir en arrière et se remettre dans le péché, hormis l'alliance satanique qu'ils vont faire avec le diable.
Ils vont,
rappelez-vous cette marque de la bête, ils vont faire ça, mais ils vont revenir en arrière
et
ils vont se mêler à l'horreur du péché qu'il y aura sur la terre à ce moment-là. Et c'est pour cela que au moment où Jésus va revenir, quand il est dit verset 50, le maître de ce serviteur reviendra et il reviendra au jour et à l'heure où il ne s'y attend pas. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième retour de Jésus. La Bible nous dit, juste au verset 51, qu'il ira où? Il va aller en enfer. Donc c'est clair qu'il ne sera pas sauvé. Donc pour moi, c'est plus des gens qui ont servi Dieu pendant la tribulation. Mais au bout d'un moment, ils vont prendre la marque de la bête. Rappelez-vous que Jésus dit plus tôt, un peu plus tôt dans le chapitre 24, qu'il va y avoir des séductions des élus, de certains élus, certaines personnes qui sont sauvées. Donc nous le savons. Un bon nombre de gens vont rétrograder et revenir en arrière et prendre la marque de la bête et ils seront damnés pour l'éternité. Donc ça, c'est la première parabole que Jésus va donner. La deuxième, ça va être la parabole des 10 vierges. Et là encore, il va falloir qu'on regarde et qu'on essaie de trouver des interprétations. Et certains serviteurs de Dieu ont trouvé certaines interprétations qui sont vraiment intéressantes. Mais nous sommes encore dans un contexte. Donc nous allons lire le chapitre 25.
ariko naha naho mwibuke ko turi mu gihe kanaka mu byo yose ariko ravuga 25
rero du verset 1 au verset 12 13 pardon 13
kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi.
Et ça c'est la fameuse parabole des 10 vierges.
Uyu ni wa mugani w'inkumi 10.
Qui ne va pas nous concerner nous l'église.
Umugani utatwerekeye twebwe nk'ishengero.
Je le dis et je le répète, ces paraboles ne nous concernent pas maintenant.
Ndabivuga ndabisubiramwo uyu mugani ntiwerekeye ishengero.
Elles concernent les gens qui seront sauvés ou ceux qui ont fait du mélange.
Ahubwo n'umugani werekeye abantu bazoba bakijijwe
cyangwa bavanze. Qui ont rétrogradé, qui ont servi le diable après.
Bakoreye Imana mu nyuma bagasubira
avoir été né de nouveau et qui se retrouve justement dans la confusion totale lorsque Jésus va revenir. Lorsque Jésus revient pour la deuxième fois, nous verrons que juste à la fin, il va nettoyer la terre, séparer les vrais chrétiens des faux chrétiens. Parce qu'après, il va restaurer le royaume, c'est-à-dire il va régner 1000 ans à Jérusalem. Et nous verrons que le millénium va commencer avec nous, mais aussi avec tous ceux qui ont été sauvés pendant la tribulation et qui ne sont pas morts, qui n'ont pas été martyrisés pendant la tribulation. Alors ici Jésus va nous donner la parabole des 10 vierges. Il dit alors, regardez bien, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ici le alors montre qu'il y a quelque chose de particulier, un contexte. À ce moment-là précis. Alors, à ce moment-là précis, le royaume des cieux sera semblable. Voilà. À quoi ? Eh bien, à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Folles, insensées, dirions-nous. N'avaient pas de sagesse, insensées, d'accord ? Ce n'est pas folle. Folle, complètement de la tête, quelqu'un qui est fou, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ici, c'est plutôt insensé, d'accord ? En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8, les folles dirent aux sages, les folles, les insensés, ça serait mieux, dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Regardez bien ici, ça va vous rappeler un verset de Matthieu qu'on étudiera tout à l'heure. Mais ils répondirent, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors nous allons étudier cette parabole. Mais là, on peut voir réellement deux types de personnes. Les vierges sages, qui vont aller aux noces de l'agneau. Rappelez-vous, les noces, les poux. Ok, vous avez compris. Les noces de l'agneau, ça va être le début donc, du règne de 1000 ans de Jésus. C'est là où l'époux a amené son épouse pour vivre sur la terre. Alors là, on va être éclairé par différents versets. Mais j'aimerais qu'on étudie le verset 12, où il est dit, je ne vous connais pas.
Et
effectivement, ça me fait vraiment penser à ce verset de Matthieu 7,
versets 21
à 23. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui posent des questions sur ce verset. Ce passage, souvent, on a des questions dessus. Où il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. On va d'abord lire tout le passage et puis après on va le ramener dans le contexte. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront, regardez bien, plusieurs me diront quoi ? En ce jour-là. Regardez bien encore, en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais quoi ? Connu, connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on va dire ça.
Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami se wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze ndabamenya mviraho mwabakora ibiziramwe.
Ces versets personnellement je suis persuadé que Christ les a donnés pour la fin des temps. C'est vrai que nous pouvons, dans le temps de l'Église, voir un certain nombre de personnes, de faux prophètes. Et Jésus en parlera un peu plus loin dans un passage. Ou un peu plus tôt, excusez-moi, si j'étais quelques versets plus haut, excusez-moi. Un peu plus tôt. Et effectivement, Jésus nous parlera de faux prophètes. Et rappelez-vous, les faux prophètes, ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Qui viennent. Et qui se font passer pour des serviteurs de Dieu et qui créent du désordre terrible. Ce sont des gens qui vont détourner des brebis avec le couvert des miracles. On va lire au verset 15 parce qu'effectivement on a le contexte. Verset 15 au verset 20, 15 à 20, toujours Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charneaux? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il est coupé et regardez, jeté où ça? Au feu. Ok, le feu, image de quoi ? Enfer, de la damnation éternelle. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, vas-y, tu peux
dire ça. Nukwigiti chiza chose chami vyiza ariko igiti kibi chami bibi igiti chiza ntigishobora kwama bibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama vyiza igiti chose kitami vyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro nuko muzobamenyera kuvyo bama.
Et c'est après où Jésus dit quiconque me dit Seigneur Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu.
Nyuma yaho rero niho Yesu acabanda akavuga ngo abamvumereza bose ngo mwami mwami bose ntibazokwinjira mu bwami bw'Imana.
Mais Jésus dit juste après verset 22 beaucoup me diront en ce jour-là.
Ngo benshi rero ngo bazombwira Yesu abanda yavuga ati ngo kuri wa munsi.
Donc en fait, Christ nous prévient doublement au travers de ce passage. Dans le temps de l'Église, il y aura des faux prophètes, c'est marqué, Paul en parle souvent à Timothée. Il va parler de faux prophètes, de faux docteurs. Et ça s'applique à l'Église. Donc des personnes qui se lèvent, qui donnent des révélations, mais dont la source n'est pas divine. Qui font même des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Mais ils les font même dans le nom du Seigneur. Mais la source est satanique. La source est démoniaque. Et il y en a eu de tout temps. Depuis le temps de l'Église, il y a des gens qui se sont levés, on peut étudier l'histoire de l'Église. Des gens qui se sont fait passer pour des prophètes. Vous savez, par exemple, les Mormons, ça a commencé, le mouvement des Mormons a commencé par une fausse révélation.
dufate nk'akaro k'ivyo uwitwa abantu bitwa ba Mormon batangujwe nihishurirwa ivyitwa ihishurirwa ritari
ryo. Le fondateur se dit prophète.
Watanguje ivyo yita umuvugishwa.
Et voyez, il y a plein de choses qui se produisent.
Urumva hari ibintu byinshi bigenda biraba.
Sous le couvert.
Bifutswe
bifukiriwe. De Dieu et même de Jésus entre guillemets.
N'Imana na Yesu bakamushiramwo.
Mais Jésus nous dit en ce jour-là.
Akwese aravuga ati muri kuri wa munsi.
Voyez, là par contre le en ce jour-là.
Aravuga ngo kuri wa munsi.
Du verset 22 là ça fait référence justement à la fin de la tribulation.
Akumurongo wa 82 urumva bivuga kubihe vy'impera yihamwa.
Vous voyez, dans ces vierges, on va revenir à l'Apocalypse. Pardon, à Matthieu 25. Pardon. Dans cette parabole avec les 10 vierges, eh bien, en fait, on s'aperçoit que là, à la fin, il y a verset
11,
il est dit, plus tard, les autres vierges arrivèrent et aussi dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une panique. À la fin de la tribulation, il y aura une immense panique. Parce que Jésus va revenir en gloire. Et il y a des gens qui vont s'être dit serviteurs de Dieu, mais qui seront complètement remplis de démons. Et qui vont essayer de pouvoir entrer dans les choses divines, parce que là, quand Jésus va revenir, les gens seront éblouis par sa gloire. Un converti comme converti. Donc nous savons que d'abord, celles qui ont de l'huile, les vierges qui ont de l'huile, sont celles qui sont nées de nouveau. Celles qui n'ont pas d'huile, c'est effectivement celles qui ne sont pas nées de nouveau. Et c'est l'image de ceux qui se disent servir Dieu et qui sont remplis de démons et qui sont de faux prophètes. Particulièrement justement à la fin de la tribulation. Et il y a cette espèce de dialogue. Alors c'est une parabole aussi, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, les gens vont réaliser que le jugement, ce n'est pas une blague. Ce qui est marqué dans la Bible, ça va bien se réaliser. Rappelez-vous, quand l'enlèvement va se produire, la réaction de beaucoup d'inconvertis, c'est de se dire, mais ces chrétiens avaient raison. Et beaucoup vont se convertir à ce moment-là, nous le savons. À la fin de la tribulation, beaucoup vont regretter d'avoir fait cette alliance irréversible avec le diable. Et ils vont tout faire pour essayer de revenir en arrière, parce que là ils vont voir Jésus revenir en gloire. Il va revenir en gloire sur la terre. Rappelez-vous son deuxième retour. Jésus, nous l'avons vu venir physiquement sur la terre, en Israël, à Jérusalem, et nous l'avons vu dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il va écraser par le souffle de sa bouche l'Antichrist. Nous l'avons vu dans le passage ici de la fin de l'Apocalypse 19. Jésus vient et détruit toutes les armées. Et il y en a, donc quand ils vont voir que tous les systèmes de ce monde sont tombés, qu'ils vont voir que Jésus est bien revenu comme les chrétiens l'avaient encore dit,
voilà la
deuxième fois que l'Antichrist est détruit, que le faux prophète est détruit, que les armées de ce monde sont détruites, les gens qui sont encore vivants, qui ne seront pas encore morts, malgré tous les jugements de Dieu, voudront essayer de négocier, entre guillemets. Mais Jésus dit clairement,
vous
voyez, il n'y aura pas de négociation à la Burundaise.
urumva nta biganiro kumwe tubimenyereye wacu bizobaho.
Vous savez, on ne blague pas avec Dieu.
On
n'est pas là en train de dire, bon, bah oui, c'est vrai, Seigneur, mais tu sais, pendant le temps de la tribulation, c'était difficile, donc moi, je suis revenu en arrière. Jésus leur dira clairement, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourtant, vous avez l'air de connaître certaines choses sur les choses de Dieu. Vous avez l'air de vouloir de cette huile qui est le symbole de la nouvelle naissance. Vous demandez à ceux qui partent pour entrer dans le millénium, donnez-nous de l'huile pour que nous aussi nous y allions. Mais elles vous ont répondu. Regardez la réponse. Là c'est vraiment toute une image aussi. Verset 8. Il est dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non. Il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pourquoi elles répondent, on ne peut pas vous le donner? Parce que évidemment, l'huile, c'est l'image du salut. Ce n'est pas transmissible. On
ne
peut pas partager le salut dans le sens « je te donne la moitié de mon salut, prends-le ». Non, ici vraiment le contexte, c'est clair. C'est en fait des gens qui s'aperçoivent qu'ils ont fait une tragique erreur. Apparemment, ils ont connu Dieu pendant un temps. Mais ils se sont tournés vers les choses diaboliques. Rappelez-vous cette immense pression qu'il y aura sur les gens. C'est des gens qui viendront chez des personnes en disant, soit tu renies Jésus immédiatement, soit on te tue. Et rappelez-vous, ils auront un droit de l'Antichrist de tuer tous les gens qui ont accepté Jésus. Les chrétiens seront persécutés. Beaucoup de gens seront là et on les cherchera partout. Ça va vous expliquer ce que Jésus va dire. J'étais en prison, vous ne m'avez jamais visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger ou vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité, etc. Ça va expliquer ça, parce que c'est dans le contexte justement de la fin de la tribulation. C'est pour ça qu'on doit comprendre ces paraboles dans un même contexte. Et là, on voit que les vierges sages disent, non, on n'en aura pas assez pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Alors certains ont interprété ceux qui en vendent, ce sont les prédicateurs. Et je suis d'accord avec ça. Vous allez me dire, on ne vend pas le salut. On ne vend pas le salut. C'est vrai, le salut est gratuit. Mais là, la plupart du temps, les gens vont payer leur prix. Ça sera le prix à payer, leur vie comme prix pour être sauvés.
Et
c'est certainement une image que Jésus ici explique. Aujourd'hui, tu as reçu Jésus. Peut-être certains, vous avez subi quelques tensions dans la famille. D'autres, quelques persécutions.
Mais
je vous ai expliqué que ce que nous subissons aujourd'hui sur la terre, ça n'aura rien à voir avec ce qui va se produire, la persécution que les chrétiens vont subir pendant la tribulation.
Et
là, ça serait vraiment, j'accepte le salut, mais je mets ma vie en danger total. C'est l'image ici. Mais bien sûr, ça sera trop tard. Pourquoi ça sera trop tard? Parce qu'on le voit, on voit justement au verset 10, il y a une image ici aussi. L'image qui est très claire, c'est l'événement. Vous savez, avec Dieu, il n'y aura pas de rattrapage à ce moment-là. Il
n'y
aura pas de repêchage. Celui qui ne sera pas sauvé, il ne sera pas sauvé. À la fin de la tribulation, celui qui aura la marque, je vous rappelle qu'il y aura soit des gens nés de nouveau, soit des gens qui seront avec un pacte éternel pour le diable, un pacte irréversible avec le diable. Je répète souvent ça pour que vous ayez le contexte, parce que si on prend tout cela et qu'on se remet dans le contexte d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour nous.
Oui,
l'image, pendant qu'elles allaient en acheter, en fait, qu'elles essayaient de se précipiter pour se dire, on a eu tort, mais on a cette marque de la bête. Et l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, elles vont louper l'événement.
Elles
loupent l'événement parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'avaient pas d'huile, elles n'étaient pas nées de nouveau. Parce qu'elles avaient accepté la marque de la bête. Donc il n'y avait plus de possibilité de rentrer dans le salut après. La porte fut fermée. Alors il y a aussi une petite remarque que j'aimerais faire. Dans le Nouveau Testament, il y a l'épouse.
Hariho umugeni.
On va reprendre en ordre. Il y a l'époux.
Reka dusubiremo neza hari umukwe.
Jésus.
Yesu.
Il y a l'épouse, l'église.
Hari umugeni ishengero.
Et il y a les amis de l'époux.
Hagacha habaho ngo nabagenzi bumukwe.
Et les amis de l'époux.
Abagenzi bumukwe.
C'est le groupe des gens qui se seront convertis pendant la tribulation. C'est pour ça qu'on donne cette image dans les noces de l'agneau. L'époux,
Christ,
qui se joint à son épouse, se marie avec son épouse. Donc là, c'est les noces de l'agneau sur la terre. Mais il y a les amis de l'époux qui seront ceux qui auront été sauvés, c'est-à-dire qui ont eu la deuxième chance, entre guillemets, de recevoir le Seigneur pendant la tribulation. Vous vous rappelez, nous recevons tout par grâce. Eux aussi seront sauvés par grâce. Mais ça sera la deuxième vague de salut qui ne durera que 7 ans, avec une immense difficulté pour rester en Christ, surtout à la fin de la tribulation. Donc vous voyez que c'est cet aspect de, on a pris la marque de la bête a été prise. Elles sont sans huile, pourtant elles connaissaient les choses du salut. Mais elles ne pourront plus aller écouter la parole et recevoir le salut. C'est trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera la fin du monde. C'est la fin des systèmes de ce monde. Dieu a donné des chances à tous ceux qui voulaient se donner à lui et de persévérer en lui, de le faire. Donc, la porte est fermée, ça veut dire que c'est fini. Avec Dieu, on ne peut pas forcer la porte. Alors, Jésus va donner une troisième parabole. Ça va être la parabole des talents. Alors, il y a de très belles images. On peut utiliser ces textes-là par rapport aux finances, tout ça. Je trouve ça très bien. Mais vous savez, parfois, nous les prédicateurs, après, on induit les chrétiens en erreur. D'interprétation. Parce que c'est vrai qu'il y a de très belles images sur savoir faire prospérer le talent que Dieu nous donne. Dans cette parabole, c'est vrai. Et il y a de bons principes divins pour la prospérité, pour les dons divers qu'on peut avoir. Mais il faut être clair, cette parabole a été donnée dans le contexte de la fin de la tribulation. Ça, c'est vraiment le contexte de cette parabole. Alors, c'est la troisième parabole, donc c'est à partir du verset 14. Et on va lire jusqu'au verset Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et remit ses biens. Là, le temps, là, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas pour l'enlèvement de l'Église, c'est pour le contexte du deuxième retour, c'est la tribulation ici dont on parle. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Regardez bien cette expression. Entre dans la joie de ton maître. Tu peux juste la dire en kirundi, en verset 21 à la fin. Voilà, tout à fait. Alors, entre dans la joie de ton maître, on va voir ce que ça signifie à ce moment-là. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, regardez bien encore, entre dans la joie de ton maître. Ok, c'est la deuxième fois qu'il lui dit. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25, j'ai eu peur. Tiens, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Rappelez-vous, on est dans le contexte de quoi ? On est dans le contexte de la fin des temps. On est dans le contexte de la fin de la tribulation. On est dans le contexte où celui qui déclare sa foi publiquement peut être assassiné immédiatement. Donc on est vraiment dans un contexte où il faut avoir une foi basée sur de puissantes convictions pour rester, garder la foi et ne pas renier Jésus et ne pas perdre son salut à ce moment-là. Donc je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, pardon, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ici encore, on voit 2 groupes de gens. Comme le dernier verset nous montre que hein, quand il est parlé des pleurs et des grincements de dents, ça nous fait penser à quoi ? Jésus va en parler plusieurs fois dans les évangiles, nous reviendrons sur ces textes. En fait, ça va nous parler de la gêne, c'est-à-dire ça va nous parler de la seconde mort qu'on étudiera un peu plus tard. C'est-à-dire ceux qui sont ressuscités pour la deuxième résurrection, qui passeront, nous le verrons un peu plus tard dans l'Apocalypse, devant le grand trône blanc du jugement de Dieu, et qui seront jugés pour l'éternité selon leurs péchés, et qui seront jetés avec leur corps de la honte dans le lac de feu et de soufre. On expliquera tout cela avec ces expressions des pleurs et des grincements de dents, etc. Alors, on voit ici qu'il y a 2 personnes, d'abord 2 types de personnes. Le premier qui reçoit 2 talents, 5 et 2. Et là, c'est l'image de recevoir l'évangile. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des gens qui reçoivent l'évangile et qui vont porter des fruits dignes du salut. D'abord, ils reçoivent et ensuite ils vont faire prospérer, multiplier ce qu'ils ont. Et c'est vraiment l'image à ce moment-là de celui qui a vraiment reçu le Seigneur pendant la tribulation, qui connaît l'urgence et qui bien évidemment veut partager l'évangile avec les autres. Et là on voit encore un aspect de récompense, mais on ne peut pas assimiler les récompenses que nous allons recevoir avec les récompenses que ces gens-là vont recevoir. Quand il est parlé de l'expression « entre dans la joie de ton maître », ça c'est l'idée d'entrer dans le millénium. Ici c'est exactement ce que ça veut dire. Entrer dans la joie de son maître ici, dans le contexte de cette parabole, ça va être l'entrée dans le millénium. Parce que rappelez-vous, ce sont des paraboles de la fin du temps des nations. Où Dieu va faire le tri entre ceux qui sont vraiment sauvés et qui ont été jusqu'au bout malgré les persécutions, pour les faire entrer dans le millénium, qui ont été sauvés dans le feu, vraiment dans le feu, en étant dans le feu de tout ce qu'ils auront vu sur cette terre, tous les jugements de Dieu, mais aussi toutes les horreurs sataniques, mais ils auront persévéré jusqu'à la fin. Et je vous rappelle que dans les gens qui vont se convertir pendant la tribulation, il va y avoir trois groupes. Le premier groupe, ce sont des gens qui vont se naître de nouveau et ils vont donc accepter Jésus, mais ils vont se faire assassiner pour leur foi. Ce seront les martyrs. Donc eux vont aller au troisième ciel. Donc pendant la tribulation, il va y avoir des gens qui vont naître de nouveau. Et puis, ils vont mourir pour leur foi. Donc, ils vont nous rejoindre au troisième ciel. Mais eux, pour l'instant, ils seront esprit et âme en attendant la fin de la tribulation où il va y avoir la deuxième phase de la première résurrection. Nous allons expliquer ça aussi. Mais ça, c'est le premier groupe de gens. Le deuxième groupe de gens qui vont recevoir le Seigneur, ça va être des gens qui vont recevoir Jésus et jusqu'au bout de la tribulation. Certains vont recevoir même avant, juste avant le deuxième retour de Jésus, un jour, deux jours, quelques heures avant. Certains, ça sera plusieurs mois avant. Mais pendant les 7 ans de tribulation, donc le deuxième groupe va recevoir Jésus et il va c'est des gens qui vont rester vivants, qui vont passer au travers de la tribulation en gardant leur corps. Et eux vont entrer dans le millénium aussi, mais ils auront leur corps de chair. C'est eux qui vont former les nations après, sur lesquels nous régnerons. Et pendant 1000 ans, ils vont mourir au fur et à mesure, mais ils vont aussi procréer pendant 1000 ans. C'est pourquoi pendant le millénium, il y aura deux types de personnes sur la terre. Il y aura nous, avec notre corps ressuscité et glorifié, mais il y aura aussi ceux qui auront passé la tribulation sans être martyrisés, nés de nouveau, et qui auront leur corps de chair comme le nôtre, un corps mortel, qui vont mourir, mais aussi qui vont avoir des enfants. Et la terre va se repeupler en partie avec eux. On expliquera ça un peu plus tard quand on va étudier le millénium. Mais le troisième groupe de gens qu'il va y avoir, c'est des gens qui vont accepter Jésus. Mais au bout d'un moment, ils vont renier Jésus. Rappelez-vous, je vous le répète, il y a plusieurs fois des avertissements dans la parole de Dieu dans l'Apocalypse, mais aussi dans Matthieu 24, où le diable va essayer beaucoup de séduire les élus, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau pendant la tribulation. Et un certain nombre d'entre eux vont renier Jésus, prendre la marque de la bête. Et personnellement, quand je vois un peu les paraboles que Jésus va donner,
Ici,
on comprend dans ces trois paraboles, que ce soit la parole des serviteurs, que ce soit la parole des vierges, que ce soit cette parabole aussi des talents, on a vraiment l'impression qu'on s'adresse à deux groupes de gens, mais qui ont une certaine connaissance de Dieu en tout cas. Ils connaissent les choses de Dieu. Pas des gens ignorants qui n'ont fait que de servir le diable et qui ne se sont jamais intéressés à Dieu. Non, là, ce qu'on voit ici, c'est le Seigneur qui demande des comptes à des gens. Les deux premiers ici, avec les cinq talents et les deux talents, c'est des gens qui reçoivent le salut et qui se pressent d'aller parler de Jésus aux autres parce qu'ils comprennent l'urgence. Ils connaissent les Écritures. Ils savent que Jésus va revenir et que ça sera fini. La terre, je vous dis, sera dans un tel... Les hommes seront dans une telle souffrance et un tel chaos inimaginable. Rappelez-vous, Jésus dit bien que la terre va connaître une tribulation, une grande tribulation, comme elle n'aura jamais connue. Donc c'est sûr que c'est difficile un peu pour nous de comprendre tout ça.
Vous
voyez, par exemple, souvent les pays en guerre, les gens sont désespérés. Et souvent, quand il y a des guerres, les gens se convertissent à l'issue des guerres. Parce que quand tu as une guerre, tu ne sais pas si demain tu seras encore là.
Tu n'es
pas en train de penser au dernier petit truc que tu as vu sur Internet, au dernier film que tu as vu au cinéma. Au dernier petit truc que tu as acheté dans une boutique.
Tu
es en train de te dire, peut-être que demain, je serai mort. Donc souvent, quand il y a des guerres, les gens, quand on prêche l'évangile, il y a souvent des gens qui se donnent à Christ.
Parce
qu'ils savent que leur vie ne vaut pas cher. Entre guillemets. Et les gens se précipitent vers Christ. Souvent, il y a des réveils à l'issue des guerres. Et en fait, ce qui va se produire ici, c'est que ça va être tellement phénoménal. Partout, la terre sera dans un chaos immense. Que ceux qui vont être sauvés et qui vont voir la continuité des persécutions et de la montée de l'Antichrist vont vraiment presser les inconvertis de venir à Jésus. Mais ceux qui n'auront pas fait alliance avec le diable, l'alliance irréversible. Dans le troisième type de serviteur, eh bien, on voit celui qui est là et qui est mauvais. Jésus dit, serviteur mauvais et paresseux, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Et parce qu'il est là, et qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher son talent. Donc c'est quelqu'un qui en fait devrait recevoir le salut ou peut-être l'a reçu et veut entre guillemets s'en débarrasser parce qu'il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il peut être mis à mort dans le contexte justement de la fin de la tribulation. Il a peur, donc qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Et il a une idée sur Dieu qui est mauvaise. Il considère que Dieu est mauvais. C'est ce qu'il va dire un peu plus tard. Et pourtant, Dieu lui dit que tu aurais dû profiter du salut.
Ngo wari kuba mu nyungu yagakiza.
J'aurais dû profiter des bénéfices du salut.
Wari kuba mu nyungu yagakiza.
Il va aller en enfer.
Achaja mu muriro.
Soit parce que il a entendu parler, mais il a jugé entre est-ce que je vais mourir alors que je veux accepter Jésus.
Kuko yaravuga ati mbega none nemere nicwe kubera nakire Yesu.
Il dit non.
Akavuga
to. Il dit non. Ou alors c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur pendant un temps.
Changa nawo numuntu yakire
Yesu. L'a renié.
Et
là perd son salut. Alors je vous rappelle, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi tous les enseignements, on en a déjà touché deux mots, que dans le temps de la grâce où nous sommes, on ne perd pas son salut, sauf dans des conditions extrêmes.
de
reniement volontaire et des gens dont Hébreu nous parle, qui sont extrêmement difficiles à, je dirais, à réunir pour un chrétien. La Bible nous donne une toute petite porte ouverte pour la perte du salut dans le temps de la grâce, qui sont des conditions très difficiles à réunir parce qu'il faut connaître Dieu profondément. Faire de puissantes expériences avec Dieu et renier Jésus volontairement. Rappelez-vous que la plupart des chrétiens rétrogrades croient toujours en Jésus. Souvent les chrétiens rétrogrades vous diront: mais tu sais, je prie encore, mais je prie à la maison. Ils n'ont pas perdu leur salut, par contre ils sont en train de perdre la majorité de leur récompense. En faisant bien attention entre les deux. Et d'autre part, je vous le dis et je vous le répète, il y a souvent des gens qu'on a considérés chrétiens nés de nouveau qui n'étaient pas nés de nouveau, qui se sont approchés de Dieu d'une certaine façon, mais qui n'ont jamais vraiment porté les fruits du salut, une transformation réelle, qui sont des adhérents à l'évangile, qui même Dieu, en vertu Dieu a fait des miracles. Rappelez-vous, les 10 lépreux, Jésus les a guéris. Mais il y en a un qui est revenu seulement. Vous savez, souvent les gens prennent les choses de Dieu qui les intéressent quand ils sont dans des galères, des moments difficiles. Et dans le temps de la grâce où nous sommes, c'est sûr que l'engagement avec Dieu peut, entre guillemets, être léger. Personne ne viendra chez toi toquer à ta porte pendant la nuit pour dire: je t'ai vu à l'église El Shaddai ce jeudi. Et soit tu renies Jésus immédiatement ou on va t'assassiner légalement. Alors que dans cette période-là, ça sera ça. Et ça sera vraiment terrible. Donc là, l'aspect de, avec un intérêt, l'intérêt c'est les bénéfices du salut, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans le millénium et dans l'éternité. Alors, donc c'est important de comprendre cette parabole vraiment avec l'aspect, la perspective de la fin des temps. Sinon, franchement, c'est vrai qu'il y a de très belles images. Je vous dis, dans la parabole des talents, il y a de très belles images qui nous servent à faire comprendre que ce qu'on a, on doit le faire prospérer. Mais la réalité de cette parabole des talents, c'est vraiment cet aspect de ceux qui vont recevoir le salut pendant le millénium, pendant la tribulation, pardon. Alors, c'est pourquoi, à partir du verset 31, Jésus va donner, va montrer ce qui va se passer à la fin du monde.
Yes.
Mais j'aimerais qu'on revienne, donc ça va être le moment où il sépare les inconvertis de ceux qui ont été sauvés pendant la tribulation. Mais ça va venir pendant une période transitoire. On va juste revenir à l'Apocalypse 19. Et après, je vais vous lire un seul verset ou deux qui nous mettront sur la piste pour voir comment on va passer de la fin de la tribulation où la terre sera dans un chaos gigantesque. Donc, on sait que Jésus, à la fin de la tribulation, il y a la fameuse bataille d'Armageddon, il vient à l'issue de cette bataille, revient à l'issue de cette bataille. Nous avons vu qu'il va venir délivrer Israël, que nous serons avec lui, nous l'avons étudié. Il revient en gloire. Et nous savons que à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, Jésus va faire quoi? Eh bien, il va venir et il va écraser l'Antichrist. Il va détruire toutes les nations, nous avions vu ça. Nous avions vu les textes dans Zacharie, entre autres. Donc nous avions vu pas mal de textes, je vais pas, on ne va pas les relire tous.
Et là,
il va mettre hors d'état de nuire tous les
inconvertis.
Alors on va lire juste un petit verset, là, comme je vous le disais, pour clôturer aujourd'hui. Que Dieu a dit à Daniel. C'est franchement intéressant. Les prophéties de Daniel en parallèle avec l'Apocalypse. Alors, on va relire à partir de on va lire à partir du verset 8, Daniel 12.
Daniel 12,
à partir du verset 8, il dit « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue ou l'aboutissement de ces choses ?» Verset 9, « Il répondit à Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. » Verset 11, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire que l'Antichrist va prendre le pouvoir et établir le gouvernement mondial. » D'accord ? « Il y aura 1290 jours. » Verset 12, « Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. »
Gukimaze cyo koswa gihora gitangwa uko bukeye uhereye igihe kizokurigwaho bagashinga cyakizira cy'ubuyobe cyazanye ubugesera hazocaho iminsi 1290 hahigwa uzorindira agashitsa ku minsi 1335.
Donc on sait que les 1290 jours représentent, je vous rappelle, 3 ans et demi, la deuxième partie de la tribulation.
Ndakwibutsa iminsi 1290 ni imyaka 3 n'inusu ya mbere.
Mais regardez ce qu'il est dit ici. Heureux celui qui attendra, ou qui pourra attendre, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il y a 45 jours qui sont nommés. D'abord, il dit à la fin de la tribulation, nous savons, la deuxième partie, les 3 ans et demi qui vont se clôturer. Jésus revient au bout des 3 ans et demi, à la fin de la tribulation. La grande tribulation. Mais ici, on voit que Dieu dit à Daniel, heureux celui qui va attendre jusqu'à, enfin qui pourra attendre en tout cas, qui attendra jusqu'à
1335
jours. Entre 1290 et 1335, il y a 45
jours.
Et personnellement, je pense que c'est là où Jésus va remettre en ordre les choses de la terre. À la fin de la tribulation, nous savons, il revient avec gloire, deuxième retour. Et après, il va mettre en place son règne de 1000 ans. Mais la Bible nous parle qu'il y a juste à partir de la fin de la tribulation où Jésus revient jusqu'au moment où il dit heureux ceux qui arriveront jusqu'au
1335.
Il y a 45 jours. Et je pense personnellement que c'est pendant ces 45 jours où Jésus va faire va en terminer totalement avec les inconvertis sur la terre. Qu'il va trier ceux qui sont vraiment nés de nouveau avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qu'il enverra en enfer. Et c'est là où le millénium, où Jésus va établir son règne de 1000 ans. Il semblerait que ces 45 jours, c'est un temps où Jésus va, c'est la transition. Où Jésus prend le pouvoir sur toute la terre et il met en ordre ce qu'il doit mettre en ordre pour que nous puissions régner avec lui et que pendant 1000 ans il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que le meilleur des gestionnaires
umubwiriza mwiza utunganya ibintu neza
wa mbere. Jérusalem.
Yesu azi Yerusalemu.
Il va établir un gouvernement mondial divin.
Ashiriho leta mpuzamahanga
y'Imana. La terre va connaître une prospérité sans précédent.
Maze isi ibe mu mutekano
n'iterambere. Israël sera la première nation du monde.
Israël ikibigihugu cambere ku isi.
Et nous régnerons avec lui.
Natwe tuganzanye nawe.
Jésus nous donnera des positions diverses.
Yesu aduhe ibibanza bitandukanye bihwanye n'impera twahawe.
Pendant ce règne.
Muri iyo nganje yiwe.
Que le Seigneur vous bénisse.
Imana ibahezagire.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.